Les colloques du Collège de France.
Maintenant, je vais donner la parole à Daniel Ferrer qui va nous parler d'une autre décomposition de l'acte créateur par la génétique. Et donc, Daniel Ferrer est directeur de recherche au CNRS. Émérite, et il a été dans le passé directeur de l'ITEM, l'Institut des textes et manuscrits modernes, et aussi, je crois, le directeur et fondateur de la revue de critique génétique Genesis. J'ai le plaisir de participer à son conseil scientifique, et son exposé a pour titre « La critique génétique a-t-elle sa place parmi les sciences sociales qui traitent de l'art ?» Voilà, merci Daniel.
Merci beaucoup Pierre-Michel, merci pour l'invitation, pour cette occasion. Donc j'ai donné comme titre « La critique génétique a-t-elle sa place dans les sciences sociales qui traitent de l'art ?» J'aurais peut-être dû dire « à côté ou entre ». Et en effet, John Elster remarque que l'une des lignes de clivage les plus tenaces à l'intérieur du domaine des sciences sociales est celle qui oppose deux formes de pensée que l'on associe respectivement au nom de Adam Smith et de Émile Durkheim. C'est l'opposition entre un homo economicus et un homo sociologicus. Celui-là est censé être guidé par une rationalité instrumentale, tandis que le comportement de celui-ci est dicté par des normes sociales. Le premier est tiré par la perspective d'avantages à venir, alors que le second est poussé de derrière par des forces quasi inertielles. Bon, Pierre-Michel Menger a montré dans le travail créateur s'accomplir dans l'incertain que cette opposition était simplificatrice, qu'elle faisait notamment l'impasse sur la sociologie interactionniste et qu'elle ne rendait pas non plus vraiment justice à la diversité des approches économiques. Mais bon, peu m'importe, puisque je voudrais simplement essayer de définir approximativement un positionnement de la critique génétique. Donc si on voulait définir un homo geneticus, qui serait l'agent que suppose implicitement la critique génétique, on dira que cette entité méthodologique est soumise à une triple impulsion. Elle est certes poussée par une série de déterminations préexistantes, les organisations fantasmatiques inconscientes, les dispositions acquises, les configurations du champ dans lequel elle s'inscrit, et elle est bien tirée par la perspective du résultat à atteindre, par l'idée d'un certain équilibre des préférences qui est incarné dans l'œuvre achevée. Mais la caractéristique propre de cet homo geneticus, c'est qu'il est mu par un mouvement non rectiligne, qui est celui de l'innovation. Il est conduit à adapter en permanence les données du problème, le résultat visé et le complexe de valeurs qui permettra d'apprécier ce résultat, tout en réinterprétant et en réévaluant continuellement les résultats provisoirement acquis, non seulement en fonction de l'évolution des circonstances extérieures, mais aussi de la logique interne et des accidents de parcours qui sont inhérents à la mise en œuvre. C'est-à-dire que vient s'ajouter aux deux autres ensembles de forces situées en amont et en aval un dynamisme qui est intérieur au processus d'écriture, ou plus généralement au processus de création. Et c'est cela que la critique génétique se propose d'étudier. Alors, que la critique génétique puisse occuper une place légitime et significative au sein ou à côté des sciences sociales ne va pas de soi. Elle a été notamment violemment contestée par Pierre Bourdieu, sous prétexte qu'elle risque de dresser un nouvel obstacle contre une science rigoureuse de la littérature, dit-il. Il se plaît à souligner ses limites en comparaison de son propre travail, qu'il qualifie de véritable analyse génétique, et il se moque de ce qu'il considère comme la disproportion entre l'immensité du travail d'érudition et l'exiguïté des résultats obtenus. Ce serait donc beaucoup de bruit, beaucoup d'efforts dépensés pour pas grand-chose. Bourdieu s'est radouci un peu dans son entretien du magazine littéraire avec Pierre-Marc de Biasi, où il dit avoir une vision intégratrice où il semble reconnaître un rôle à la génétique textuelle, à condition qu'elle demeure rigoureusement subordonnée à l'approche sociologique. Mais j'ai découvert que ces critiques reprenaient de plus belle dans un de ses derniers cours du Collège de France, le cours sur Manet, qui a été publié après sa mort. Et alors qu'il fait preuve d'indulgence aussi bien pour les matérialistes mécanistes que pour la critique formaliste, il est particulièrement sévère pour la critique génétique, qu'il qualifie de fausse révolution et de restauration chic. Et il précise que sa propre analyse génétique n'a rien à voir avec celle des gens qui font de la critique génétique, alors qu'en fait plusieurs de ses analyses des tableaux de Manet relèvent d'une interrogation sur les processus de création qui est assez similaire à celle de la critique génétique. Et finalement, il affirme que la critique génétique est un retour à la vieille critique classique. Il ajoute, il est très étonnant de voir de vieux critiques universitaires démodés qui ont pinaillé des textes pendant toute leur carrière prendre un coup de jeune à la faveur de cette fausse révolution. On peut dire la même chose du côté de la radiographie des tableaux. Quand on dit, voyez Velázquez, il avait dessiné autrement la patte du cheval, c'est de la critique génétique typique, c'est la genèse de la chose même, mais on ne remonte pas très loin dans la régression. En particulier, on ne remonte pas du côté des schèmes opératoires qui ont produit cette patte et qui ont produit la correction de cette patte, c'est-à-dire ce qui fait qu'il n'a pas été content de cette patte et qu'il a voulu en faire une autre. Cela suppose un goût qui est une dimension de l'habitus, quelque chose qui est incorporé, singulier, ineffable et qui oriente des préférences gustatives au sens très général, aussi bien en cuisine qu'en peinture. Alors bien sûr, on ne peut pas ignorer l'habitus qui a modelé au cours du temps les dispositions du créateur, mais on ne peut pas dire grand-chose des préférences qui en découlent. Elles relèvent, comme le dit Bourdieu lui-même, de l'ineffable, et on ne peut guère faire plus que postuler leur existence. Or, la critique génétique ne veut pas se contenter de ce singulier ineffable, elle pense qu'on peut dire quelque chose de précis, non pas sans doute directement sur les préférences gustatives de l'individu créateur, mais au moins sur ses changements de préférences. En effet, on aura du mal à expliquer, autrement que par des généralités ou des conjectures toujours risquées, pourquoi un peintre choisit de faire une patte de cheval de telle manière plutôt que de telle autre, et on aura du mal à comprendre pourquoi un écrivain choisit tel mot ou tel développement. Mais si on constate une évolution par rapport à un stade antérieur, s'il y a un changement de préférence, on peut commencer à dire des choses précises, on peut commencer à discerner quelque chose qui peut être systématisé. Alors, dans une intervention qu'il intitule « La critique ou le point de vue de l'auteur », Bourdieu considère que le véritable objet de l'intention critique serait de reconstruire la poétique insciente de l'auteur et le point de vue à partir duquel elle s'engendre. Mais en même temps, il qualifie cette entreprise de désespérée. Et en effet, elle est désespérée si on cherche à faire correspondre à l'œuvre le point de vue unifié d'un auteur. Qu'il soit souverain ou qu'il soit déterminé par son environnement, en oubliant que, comme le dit si bien Valéry, une œuvre est toujours un faux, c'est-à-dire une fabrication à laquelle on ne pourrait pas faire correspondre un auteur agissant d'un seul mouvement. Elle est le fruit d'une collaboration d'états très divers, d'incidents inattendus, une sorte de combinaison de points de vue originairement indépendants les uns des autres. Les brouillons des écrivains, ou les esquisses des peintres, ou les ébauches des sculpteurs, etc., nous permettent d'observer indirectement, mais en quelque sorte in vivo, comment, comme le dit aussi Valéry, l'œuvre modifie l'auteur. À chacun des mouvements qu'il attire de lui, il subit une altération. Et ces documents permettent d'observer concrètement comment l'auteur, ainsi modifié, remet en cause ses décisions et le système axiologique qui les sous-tend. Alors, vous vous souvenez du célèbre passage de Pascal sur le bonheur « Tous les hommes recherchent d'être heureux ». Cela est sans exception, ils tendent tous vers ce but. Ce qui fait que les uns vont à la guerre et les autres n'y vont pas est ce même désir qui est dans tous les deux, accompagné de différentes vues. La volonté ne fait jamais la moindre démarche que vers cet objet. C'est le motif de toutes les actions, de tous les hommes, jusqu'à ceux qui vont se pendre. Pascal anticipait là le point de vue des économistes qui considèrent que l'homme est un animal maximisateur d'utilité, utility maximizing animal, cherchant à tout instant à atteindre la plus grande satisfaction possible et qui pense que la pluralité des motivations peut se résorber dans un calcul de l'utilité résultante, comme par exemple Gary Becker tente de le démontrer avec ses formules mathématiques. Mais si vous regardez le manuscrit original des Pensées, on s'aperçoit que Pascal avait d'abord écrit ici, entre la deuxième et la troisième phrase, je vous mets la transcription, ça sera plus facile, « Je n'écris ces lignes et on ne les lit que parce que je me procure plus et qu'on y trouve plus de satisfaction qu'à... » Mais il s'est interrompu et il a rayé cette remarque réflexive avant même de l'avoir terminée. Donc un basculement soudain s'est produit. À l'évidence, celui qui commençait la phrase trouvait plus de satisfaction à écrire ces mots qu'à ne pas le faire. Et il n'est pas exactement le même que celui qui s'est interrompu brusquement et qui les a rayés et qui n'y trouvait plus son compte. Alors, les économistes considèrent les préférences comme des variables exogènes et pour les rattraper en quelque sorte, les réintégrer, ils ont inventé la Revealed Preference Theory, c'est-à-dire que les préférences inconnues se manifestent comme par une révélation mystique à travers les choix observables. Mais en fait, les choix ne révèlent pas grand-chose s'ils sont pris isolément, comme l'a montré Amartya Sen. La révélation suppose une cohérence, mais précisément, les ratures, par exemple, exhibent une incohérence dynamique. La rature, comme le repentir pictural, est une réévaluation, en quelque sorte une palinodie axiologique. L'élément raturé apparaît comme n'ayant plus une valeur suffisante pour être retenu. Si celui qui relit avait exactement les mêmes préférences que celui qui a écrit, il n'y aurait pas de rature, pas de correction, pas de nouvelle version. On peut dire que c'est l'intervalle qui s'ouvre entre les deux instances, instance écrivante et instance révisante, qui donne lieu à la critique génétique. C'est là que les préférences se laissent observer. Certes, il n'est pas facile de s'immiscer ainsi entre l'écrivain et lui-même, de comprendre cette dérive qui peut être infime ou massive entre deux positions. On ne peut jamais observer directement la dérive elle-même, on peut seulement observer son résultat, c'est-à-dire la correction effectuée qui joue le rôle de ces témoins géodésiques grâce auxquels on peut mesurer l'évolution d'une faille. Alors, soit un écrivain qui écrit le mot noir, puis le rature et le remplace par le mot blanc. Pourquoi ce choix? Pourquoi l'un est-il préféré à l'autre? Toutes sortes d'explications concurrentes peuvent se présenter, par exemple si l'écrivain est, disons, Edgar Poe. On peut se tourner vers la psychanalyse qui a beaucoup à dire sur son cas. D'après Marie Bonaparte, le blanc occupe une place dominante dans l'œuvre de Poe parce que cette couleur est liée à l'image de la mère et au lait maternel. Pour d'autres critiques, en revanche, la préférence pour le blanc trahit la perspective sudiste de Poe, sa croyance en la suprématie blanche et sa peur des fils de Ham. Quoi qu'il en soit, si de telles explications étaient suffisantes, il n'y aurait que du blanc dans les œuvres de Poe. Or, on remarque qu'il y a aussi beaucoup de noir, du rouge, etc. Il est très possible qu'il y ait chez lui, bien en amont du processus de genèse, une attirance profonde qui puisse expliquer une préférence pour le blanc, une motivation psychanalytique ou politique, ou un dressage corporel constitutif de son habitus qui expliquerait la valeur qu'il lui confère, Et bien sûr, nous ne devons pas ignorer l'existence de ces préférences profondes, de ces impulsions primaires, mais leur pouvoir explicatif n'est pas très grand, ni pour comprendre le processus créatif, ni pour expliquer l'individualité des œuvres. Si ces préférences primaires étaient réellement déterminantes, toutes les œuvres d'un auteur seraient identiques, tous les auteurs de la même classe sociale ou placés dans les mêmes circonstances produiraient des œuvres semblables. On peut toujours trouver des différences qui expliqueraient, par exemple, pourquoi c'est Manet et pas Degas qui a été l'opérateur de ce que Bourdieu considère comme une révolution symbolique. Mais le plus souvent, ça apparaît comme des justifications artificielles a posteriori qu'on aurait très bien pu renverser s'il fallait justifier l'inverse. Alors, quand nous considérons l'œuvre achevée, nous constatons une surdétermination de chaque élément qui remplit des fonctions multiples, par exemple euphonique, dramatique, thématique, symbolique. Mais du point de vue de la Genèse, souvent, on peut observer qu'un facteur a été déterminant et a entraîné les autres, qui à leur tour vont provoquer des répercussions en chaîne. Par exemple, un mot dans un poème est choisi pour la rime, mais il introduit du même coup des connotations nouvelles, des affordances, qui vont conduire à une reconfiguration plus ou moins complète des priorités et à un bouleversement complet du projet initial. C'est bien une modification du contexte qui explique les changements de perspective révélés par les mutations de l'œuvre, mais ce n'est pas la plupart du temps un changement soudain du contexte historique ou une modification des équilibres du champ artistique, et ce n'est certainement pas une modification instantanée de l'habitus qui peut expliquer les changements de préférence dont témoigne l'erreur d'un manuscrit, les réécritures de toutes sortes les repentirs que révèle la radiographie d'un tableau. La critique génétique n'ignore pas le contexte. C'est au contraire parce qu'elle prend très au sérieux cette notion qu'elle considère que la position d'un mot sur un feuillet, la position d'une page dans un cahier, d'un extrait dans une revue peut être déterminant au même titre que la situation historique générale ou la position dans le champ artistique. Et surtout, elle considère que tout acte de création interagit avec les actes qui l'ont précédé. C'est ce que j'appelle une mémoire des contextes. C'est-à-dire que les contextes successifs traversés par l'œuvre au cours de son élaboration continuent d'y jouer un rôle actif, même si on ne peut pas toujours le percevoir directement dans l'œuvre. Je prendrai une illustration, c'est peut-être plutôt une allégorie qu'une illustration, une illustration toute proche, à quelques dizaines de mètres d'ici. Vous avez peut-être certainement remarqué dans la rue du Cardinal Lemoine, juste derrière le Collège de France, le Collège des Écossais. Et vous avez sans doute admiré sa façade majestueuse, mais qui a quelque chose d'un peu étrange, qui lui donne son caractère propre. Alors pour le comprendre, il faut savoir que la pente de la rue du Cardinal Lemoine a été rectifiée en 1685. Ce qui était le portail d'entrée est devenu une fenêtre du premier étage et il a fallu créer une nouvelle porte. L'architecte qui a créé la nouvelle façade l'a fait sous la contrainte, littéralement sous le poids de l'existant, du déjà construit. Le résultat est une façade complètement originale qui est la résultante d'un changement de contexte extérieur et d'un bâti préexistant. On peut dire que la façade actuelle se souvient de l'état antérieur de la topographie de la montagne Sainte-Geneviève à travers le souvenir de l'état antérieur de la façade. On peut aussi dire les choses autrement, dire que l'action créatrice est une action distribuée entre plusieurs instances, parmi lesquelles il faut compter non seulement les acteurs humains, résonance avec la communication précédente, les acteurs humains qui ne se limitent généralement pas à celui qui signe l'œuvre, mais aussi, d'une part, les manuscrits, les carnets, tous les supports matériels qui jouent un rôle actif dans la création, et surtout les états antérieurs de l'œuvre qui s'inscrivent sur ces supports, tout le déjà écrit, ou le déjà peint, ou le déjà composé, ou le déjà construit, qui incarne une perspective différente de la perspective actuelle et qui interagissent avec elle. On peut dire qu'elle collabore, qu'elle coopère à la création, y compris parfois sous la forme d'une inertie paralysante ou d'autres formes d'anticollaboration. Alors justement, Bourdieu se plaît à mettre en évidence cette action négative de l'histoire qui pèse de tout son poids pour restreindre les possibilités et, dit-il, tend à réduire le possible au probable. Alors, il est vrai que l'histoire pèse, comme l'ancienne façade du Collège des Écossais pèse sur la nouvelle, mais ce poids ne réduit pas nécessairement le possible au probable. En l'occurrence, il aboutit plutôt à une façade improbable. Alors, la conception restrictive qui est exprimée par Bourdieu est peut-être justifiée à l'échelle d'un distant reading, d'une vision statistique de la production littéraire ou artistique, mais le close reading hyperbolique que constitue la critique génétique nous montre que ce n'est pas le cas à l'échelle de l'œuvre singulière. J'entends par là, bien sûr, les œuvres innovantes qui ont tendance à nous intéresser plus que les autres. C'est d'ailleurs le même biais qui conduit Bourdieu à travailler sur Flaubert et Manet. Mais c'est vrai également des œuvres les plus stéréotypées, les plus répétitives, les écritures à la chaîne, pour reprendre le titre d'un numéro récent de notre revue Genesis, qui doivent toujours introduire une parcelle infime de nouveauté pour pouvoir exister. La critique génétique, en tant que discipline consacrée à l'étude des processus de création, essaye de comprendre ce qui rend possible cette parcelle d'improbable. Ce que nous constatons est plus proche de la conception de l'histoire qu'exprimait récemment Patrick Boucheron dans Le Monde. Le temps passé est moins un dépôt inerte qu'une énergie fossile, toujours susceptible de se réactiver. Bourdieu lui insiste sur le faisceau de strictes contraintes sous lequel la création se développe. Il parle d'une sorte de transcendantal historique, un système de catégories sociales, de perception et d'appréciation, de conditions sociales de possibilité et de légitimité qui définissent et délimitent l'univers du pensable et de l'impensable. Alors, en effet, il est certain, comme le disait déjà Ravel Flynn, que tout n'est pas possible à toutes les époques. Mais une telle vision purement négative de la possibilité peine à expliquer de manière convaincante l'invention et le surgissement de la nouveauté. Alors, comme le remarquait Bergson, fermez la barrière, vous savez que personne ne traversera la voie. Il ne suit pas de là que vous puissiez prédire qui la traversera quand vous ouvrirez. C'est un truisme de dire que la possibilité d'une chose précède sa réalité, si on entend simplement par là que les obstacles ayant été surmontés étaient surmontables. Et il ajoute, encore faut-il se demander dans certains cas si les obstacles ne sont pas devenus surmontables grâce à l'action créatrice qui les a surmontés. L'action, imprévisible en elle-même, aurait alors créé la surmontabilité. Avant elle, les obstacles étaient insurmontables et sans elle, ils le seraient restés. Et plus loin, je crois qu'on finira par trouver évident que l'artiste crée du possible en même temps que du réel quand il exécute son œuvre. Mais en fait, Bergson n'explique jamais vraiment cette action créatrice qui demeure là aussi de l'ordre de l'ineffable. La critique génétique, de son côté, prétend apporter quelques lumières sur ce mystère de la création. Le mystère se dissipe, ou du moins il se réduit, si on considère le trajet parcouru pour parvenir au but, le but étant défini rétrospectivement comme tel. Ce qui n'était pas possible dans un premier temps, le devient graduellement. Je sais bien que Bourdieu lui-même s'est réclamé à plusieurs reprises d'un gradualisme, mais il me semble que chez lui, il est invoqué abstraitement, mais il n'est jamais vraiment démontré. Or, quand on étudie les manuscrits et les autres documents de Genèse, on s'aperçoit qu'une bonne partie du travail créateur consiste en une relecture de ce qui a été provisoirement posé et en une découverte graduelle, a posteriori, des potentialités recelées par ce provisoire. Alors, pour ne pas rester moi-même dans l'abstraction, je finirai sur un exemple un peu développé, illustrant l'avènement progressif de la nouveauté en dépit des improbabilités et en dépit même des impossibilités manifestes. C'est un exemple atypique, mais j'espère qu'il sera d'autant plus démonstratif puisqu'il s'agit d'une innovation majeure, d'une transgression radicale, comme on n'en rencontre guère de comparables. Je veux parler de l'utilisation systématique de création lexicale dans une œuvre narrative, le Finnegan's Wake de James Joyce. Le recours systématique à des mots, mots-valises, qui ne figurent dans aucun dictionnaire, mais qui assurent une ouverture polysémique considérable. C'est d'ailleurs une innovation qui, lors de la sortie du livre en 1939, a dérouté beaucoup de lecteurs enthousiastes d'Ulysse, le livre précédent de Joyce. Il faut dire que l'époque était sans doute devenue plus soucieuse de responsabilités sociales et moins favorable aux expérimentations formelles que la période moderniste qui avait précédé. Alors, il est clair que le contexte historique, social et littéraire de l'époque ne saurait à lui seul rendre compte de la genèse de ce qui fait l'individualité de cette œuvre. Et ce serait une solution facilitée de renvoyer à un habitus ineffable de l'écrivain. C'est en considérant les traces du processus de création, dans la mesure où nous avons la chance qu'elles subsistent, qu'on pourra découvrir les petits pas et même les reculs qui ont abouti à ce qui paraît être le brusque surgissement de l'innovation. Alors, il me semble que pour rendre compte, bon, de manière évidemment très schématique, de cette caractéristique saillante de Finnegan's Wake, il faut remonter plusieurs décennies en arrière et se reporter à un passage d'Ulysse, et plus précisément du troisième épisode, Protée. Il s'agit du monologue intérieur de Stephen Dedalus, le jeune artiste, qui se promène sur la grève en s'efforçant de composer un poème. Et voici le vampire qui vient, ses yeux perceurs de tempête, sa voilure de chauve-souris qui ensanglante la mer, bouche au baiser de sa bouche. Là, prenons ça au vol, vite, mes tablettes, bouche à son baiser. Non, il en faut deux. Collons-les bien. Bouche au baiser de sa bouche. Il faisait la moue et ses lèvres effleuraient et mâchonnaient de fictives lèvres de vent. Bouche à son ventre. Alors, on voit que au moment de noter les vers qui lui sont venus à l'esprit, Stephen Dedalus hésite sur les derniers mots, bouche au baiser de sa bouche, en anglais mouth to a mouth kiss. Et il essaye une variante, bouche à son baiser, qu'il écarte en s'expliquant la raison pour laquelle il préfère la première formule. Il invoque classiquement la symétrie. Le baiser doit superposer exactement les lèvres du vampire à celles de la femme. Les deux bouches doivent se répondre en écho. Il en faut deux, dit-il. La fiction nous donne ici un accès direct à la rature mentale et à une explicitation de la préférence dont elle témoigne, deux choses dont nous ne disposons pas ordinairement. Mais Stephen continue à évaluer sa trouvaille, il mime le double baiser, il se met en bouche les sonorités, jusqu'à ce que surgisse une nouvelle variante, Bouche à son ventre, en anglais Mouth to a Womb, et c'est du moins ce qu'on trouve dans l'édition originale et dans la première traduction française. Mais si on passe de cette genèse fictive à la genèse réelle de ce passage, voici ce qu'on constate, en simplifiant beaucoup. Sur le premier manuscrit complet de l'épisode, que voici, on peut voir que là où la version... là où la version imprimée porte « Mouth to a Womb », il avait écrit d'abord « Mouth to a Moong ». Et dans un mot valise en quelque sorte qui faisait affleurer sous la bouche « mouth », aussi bien « moon », la lune, que « womb », le ventre, la matrice, et « tomb », la tombe. Mais on voit que le mot est aussitôt rayé au fil de la plume et que Joyce va aligner dans la marge, ou plutôt superposer dans la marge, une série de mots composites, placés les uns en dessous des autres. Et il semble hésiter sur ce qui rendra le mieux ce mâchonnement, cette manducation du mot par le poète. Alors voyons, on peut lire « moung, 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 moung ». Et puis finalement, il aboutit à un mot qu'il va immédiatement réimporter dans le corps du texte, juste après le mot qu'il avait rayé. Alors, pourquoi choisit-il « moumb » parmi les autres éléments de ce paradigme? On voit que Joyce élimine le son « g » qui traduisait bien le mâchonnement du mot, mais qui brouillait un peu les sens superposés. Il semble opter pour une relative simplicité. Cette préférence semble d'ailleurs confirmée par les stades suivants, puisque dans la mise au net qui suit, le mot devient « moumb », encore plus simple, et va finir par se normaliser lexicalement en « womb », comme nous l'avons vu dans la version publiée. Alors, cet extraordinaire empilement de mots valises dans la marge du brouillon, ça représente parfaitement ce que Roman Jakobson avait appelé l'axe paradigmatique, le réservoir de formes disponibles pour être injecté en un point donné dans le flux du discours, dans l'axe syntagmatique. L'axe paradigmatique est l'axe de la sélection. Il représente l'ensemble des possibles entre lesquels il est nécessaire d'exercer un choix, puisque le langage est linéaire et n'admet en chaque point de la phrase qu'une seule forme à la fois. Mais on se heurte ici à un paradoxe, puisque le paradigme qui se déploie dans la marge est entièrement constitué de mots qui ne figurent pas dans ce paradigme des paradigmes qu'est le dictionnaire. Moum, 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 tout ça, ça n'existe pas. Il est constitué de mots qui, théoriquement, ne constituent pas un choix possible. Et d'autre part, ces mots-valises sont précisément le résultat d'un refus de choisir. La volonté de faire coexister en un même point de l'axe syntagmatique plusieurs formes concurrentes qui devraient s'exclure. Enfin, est-ce qu'il est question de bouche, de lune, de tombe, de ventre? Et en fait, Joyce se donne ici les moyens de choisir entre des non-choix. Et en fait, les possibles se vengent. Il semble que la version publiée, donc le simple womb, soit le résultat d'une erreur de l'imprimeur qui aurait mal lu et qui aurait normalisé. Et Joyce, apparemment, a laissé passer, en s'abstenant de corriger, de guerre lasse peut-être, ou plus probablement sans s'en rendre compte, victime lui aussi de l'inertie de la langue. Alors, la question va se reposer différemment quelques mois plus tard, quand Joyce travaille à l'épisode des sirènes, ce qui est le 11e épisode d'Ulysse. Le contexte, cette fois, est différent. Le chapitre est consacré à la musique et Joyce va essayer de donner au langage narratif une forme qui approximerait la musique. Bon, rétrospectivement, il nous apparaît assez clairement que les mots-valises qui superposent plusieurs morphèmes en un seul point de la chaîne signifiante offrent une bonne correspondance à la superposition de plusieurs sons dans un accord ou de plusieurs lignes mélodiques dans une polyphonie. Pourtant, Joyce n'y vient pas tout de suite, il y vient très progressivement, comme on le voit sur cet exemple que je vais étudier maintenant, qui apparaît d'abord ici, en marge du manuscrit. Je fais un gros plan, et puis je vous donne la transcription, qui sera plus facile. Il écrit « A ray of hope is beaming, Lydia for Lidwell unsqueak the cork ». Lydia étant la barmaid qui débouche une bouteille pour Lidwell qui est son client. A ray of hope étant les paroles d'une chanson qui est chantée en arrière-plan par un autre client. On voit que Joyce introduit un premier mot-valise assez simple, unsqueaked, qui réunit unscrew, qui signifie déboucher au moyen d'un tire-bouchon, et squeak, qui est le grincement du bouchon dans le goulot. On pourrait donc traduire ça par dégrince, en quelque sorte. Alors, au stade suivant, la syntaxe se complique un peu, mais on en reste à ce mot valise qui est relativement simple et qui est conforme aux lois de la création lexicale. Mais quand Joyce va réviser ce chapitre, quelques mois plus tard, il aura beaucoup avancé, son travail est devenu plus expérimental, son approche est devenue plus radicale, et donc la révision se produit dans un tout nouveau contexte. Ce contexte se matérialise très concrètement par le fait que c'est sur une page des placards du 12e épisode, le Cyclope, que Joyce révisait en même temps que les épreuves des sirènes, chapitre qui nous intéresse. Et c'est sur ce placard que Joyce expérimente plusieurs mots-valises, et notamment celui qui nous intéresse ici, qui conjoint Hope et Cork, l'espoir et le bouchon. Et c'est ici, vous voyez, il hésite, comment il va les fusionner, Cork, Hopok, et puis il arrive à Hopk, qui va retenir. Et dès qu'il l'a retenu, il va l'insérer sur les épreuves des sirènes qu'il était en train de corriger en même temps. Et cette fois, alors ça donne... Oui. Ray of hope, beaming, Lydia for Lidwell, squeak, scarcely hear so ladylike the muse, and squeak the ray of hope. Ça devient beaucoup plus difficile à comprendre, mais pour ce qui nous intéresse plus particulièrement, on a ce mot valise, beaucoup plus choquant, beaucoup plus transgressif que le premier. Alors, cette fois, il va bien parvenir jusqu'à la première édition, mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'un correcteur professionnel est engagé pour réviser le texte, qui comportait beaucoup de coquilles, pour la deuxième édition de 1926, le correcteur a tenu pour acquis que ce mot bizarre ne pouvait être qu'une coquille malencontreuse, et il l'a éliminé et remplacé par « hope », tout simplement. Et à l'insu de Joyce, qui était trop occupé à l'écriture de son œuvre suivante et qui n'a pas relu, et donc hop, qui a disparu de toutes les éditions suivantes jusqu'à l'édition critique de 1984. C'est donc bien qu'il était d'une certaine manière socialement impossible. Ça n'a pas empêché qu'il soit écrit, qu'il fasse partie intégrante de l'œuvre. Ça n'a pas empêché non plus que les mots-valises de ce type ne réapparaissent et ne se multiplient dans l'œuvre suivante, qui était Finnegan's Wake. Alors, bon, dans le temps limité qu'il reste, je peux vous montrer très schématiquement comment ça s'est fait progressivement et comment quelque chose qui n'était pas envisagé au départ est devenu la caractéristique saillante de l'œuvre. Alors, un des tout premiers fragments que Joyce écrit en vue de ce qui deviendra Finnegan's Wake décrit une très jeune fille et notamment la manière dont elle récite sa prière avant de se coucher, le Notre Père, en la disant à toute vitesse et en avalant les mots au point que ça devient complètement incompréhensible, s'est transformé en une bouillie de langage de laquelle émergent quelques îlots, quelques bribes de vocables qu'on croit saisir mais qui n'ont rien à voir avec l'original sous-jacent. Par exemple, ici, evil men, c'est-à-dire méchants hommes, ça provient de la fin du Notre Père, deliver us from evil, amen, délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Donc la conjonction de tout ça donne quelque chose de complètement différent. Comme dans un mot valise, le langage est trituré de manière à faire apparaître plusieurs niveaux de sens superposés. Mais, encore une fois, pour des raisons qui nous sont inconnues, ce passage va disparaître et ne sera pas repris dans les stades ultérieurs. Mais, à partir de là, si on suit le déroulement de l'écriture de Finnegan's Wake, on voit quelques créations lexicales être ajoutées de ci, de là. Par exemple, ici, vous voyez que dans un blanc, Joyce a rayé « potatoes » et l'a remplacé par « cauliflowers ». C'est « cauliflowers », le chou-fleur, mélangé avec « colic », les coliques qui sont produites par ce chou-fleur pour former un mot valise. Donc ça apparaît très parcimonieusement dans les toutes premières versions et puis ça va apparaître de plus en plus intensément jusqu'à constituer le tissu même de l'expression. Joyce va bourrer de plus en plus son texte de mots valises. Donc ce qui d'abord a chopé systématiquement s'est enfin mis à proliférer et à constituer le tissu même de l'œuvre. Donc on peut dire que la manducation créatrice du jeune poète en train de composer dans Protée, la musicalisation polyphonique du langage dans Les Sirènes, la litanie cervelée et désacralisatrice de la jeune impertinente dans L'Esquisse abandonnée. En fait, il a fallu traverser toutes ces phases pour en arriver là, pour vaincre les résistances internes et externes qui s'érigeaient en impossibilité absolue. Finnegan's Wake conserve la mémoire de tous ces états antérieurs qui sont restés en apparence lettres mortes, mais qui ont été des étapes indispensables de l'avènement de la nouveauté. Donc, pour conclure, la critique génétique essaye de comprendre comment les œuvres sont advenues dans leur individualité à travers l'histoire de leur développement. Et à partir de là, elle s'efforce de trouver des régularités, voire des lois, qui président à la genèse de cette individualité. Et c'est à ce titre qu'elle aurait sa place parmi ou à côté ou entre les sciences sociales.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.